Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Nous recevons chez vous. Nous sommes aujourd'hui lundi 3 août 2015. Bienvenue donc à cette émission. Aujourd'hui, il est question de la situation sécuritaire avec la mort lors d'attaques surprises de plusieurs soldats maliens dans le nord et au centre du pays. Nous sommes donc avec trois invités pour en parler. André Bojo, chercheur et spécialiste du Sahel. Firoun Maïga de la plateforme. Et Mohamed Diri Maïga du MNLA, du Mouvement National de Libération de l'Azawad. Je suis Famoussa Sidibé, Salem Djouara est à la technique.
Studio Tamani.
Bonsoir messieurs et bienvenue à cette émission. Deux embuscades en 72 heures. Dans un premier temps, deux soldats maliens ont été tués samedi et quatre autres blessés dans une embuscade tendue par des hommes armés vers Nampala, près de la frontière avec la Mauritanie. Dans un second, tôt ce matin, une autre attaque a été menée contre un camp militaire à Gourmararous, tuant 11 soldats de la garde nationale. Alors, vers quoi se dirige-t-on dans cette crise malienne, André Bojo, si nous l'avons au téléphone, bonjour.
Bonjour.
Alors, André Bojo, dites-nous, vers quoi se dirige-t-on?
Allô?
Oui, je vous entends.
Allô? Oui, j'ai pas entendu votre question.
Alors, j'ai décrit la situation, plus d'une dizaine de soldats tués en moins de 72 heures. Alors, vers quoi se dirige-t-on?
Bah, c'est difficile à dire vers quoi. C'est une course, une observation de l'extérieur. Manifestement, les conditions de sécurité, les conditions de la paix ne sont pas réunies, puisque, comme vous venez de le dire, il y a des attentats qui se sont produits dans la région de Ségou, entre, sur l'axe Diabali et Nampala, et puis plus récemment, ça veut dire ce matin, à Gourmararous. Ça repose le problème, de mon point de vue, qui demeure un problème de fond. C'est les conditions d'élaboration des accords de paix dits d'Alger. La première chose que je veux souligner, c'est comment peut-on parler, signer des accords de paix sans prendre en compte la donnée des groupes armés narco-djihadistes qui sont quand même dans le septentrion malien et qui maintenant sont pratiquement sur l'ensemble du territoire malien. Si ce n'est pas pris en compte pour créer les conditions de la paix, il est bien évident qu'eux vont continuer à faire des attentats et à mener leur politique qu'ils mènent depuis déjà plusieurs années. La deuxième chose que je voudrais dire à propos toujours du contenu des accords d'Alger, à partir du moment où les autorités maliennes ont reconnu le bien fondé de l'existence de l'entité géographique, politique et culturelle de l'Azawad, les gens cherchent à se placer se réclamant de la Zawad pour trouver probablement des postes dans un éventuel remaniement ministériel. Donc, encore une fois, le problème de fond, c'est le contenu des accords d'Alger. Comment peut-on parler de retour à la paix sans avoir pris en compte cette dimension des groupes armés narco-djihadistes qui, eux, ne veulent pas négocier? Donc on est dans des contradictions insurmontables.
Merci beaucoup André Bourgeot. Je rappelle que vous êtes chercheur et également spécialiste du Sahel. Alors Firoun Maïga avec moi dans ce studio. Firoun, dites-nous qui sont ces terroristes et d'où ils viennent.
Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir André. Je voulais d'abord m'incliner devant l'âme des disparus. C'est des Maliens qui sont partis dans des conditions nobles, les armes à la main. Et c'est quelque chose qui arrive, qui doit arriver dans des situations comme ça. Je pense que les Maliens et les Maliennes se doivent de se ressaisir et d'aller de l'avant. La mission de l'armée, c'est de défendre la population, les biens et les services. Ce qui est arrivé à Nampala et ce qui vient d'arriver à Ararous est déplorable. C'est chez moi Ararous, c'est mon cercle. Je pense que ça démontre une fois de plus que les autorités maliennes se doivent d'aller plus loin que ce qu'ils pensent. que la signature de l'accord ne met pas, ne fait pas de facto une sécurité tacite, c'est-à-dire que l'accord est signé comme les Maliens lambda aiment l'entendre. Bon, on a signé l'accord, il n'y a pas d'autre problème. Non, c'est maintenant que commencent les vrais problèmes. Et je pense qu'on doit avoir une armée revigorée, une armée alerte, une armée qui anticipe et une armée qui ne cède pas à la panique comme ils l'ont fait. Ils se sont battus par rapport à ça. Maintenant, qui sont ces djihadistes? On a entendu Almira Boutoun. Ce que je sais et de ce que j'ai appris des autres, c'est que c'est des éléments qui sont venus du Gourma, de la frontière du Burkina. Ils sont passés par tous les mailles que l'on connaît. D'après certains, ils sont connus de tout le monde. Les gens se les connaissent. Ils ne sont pas dans le processus, comme on le dit, comme l'a dit André Bourgeois, je suis d'accord. Sur cette question-là, à Alger, elle a été posée. La communauté internationale dit qu'elle ne négocie pas avec des terroristes, ce qui est dans cette situation-là très complexe. Le Mali est dans une situation de retour de paix. Nous savons qu'au-delà de cette paix, de cet accord signé, il y a d'autres acteurs qui sont là, qui ne sont pas dans le processus de paix, mais qui ont un autre idéal. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Mali seul qui est concerné. C'est et le Mali, et la communauté internationale, et tout le peuple malien qui doivent se dire. Et que c'est une question à prendre en compte. C'est une question sur laquelle il faut réfléchir, qu'il faut traiter. Il faut que les Maliens ensemble se disent, bon, ceux qui sont dans le Gourma, qui sont à Bamako, qui sont à Sikasso, à Kaï, font partie de nous, et qu'on comprenne aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme n'est pas une question de langage, c'est des faits, et que chacun est concerné par ça.
D'accord. Alors, nous avons également en ligne Mamadou Djeri Maïga. Djeri Maïga, bonjour. Toujours pas en ligne. Alors, c'est à travers des embuscades que les terroristes s'expriment. Aujourd'hui, est-ce que l'armée malienne, à elle seule, a les moyens et l'accompagnement nécessaire pour pouvoir se défendre sur le terrain, André Bourgeois?
Oui, je trouve que vous privilégiez un petit peu trop le rôle de l'armée malienne. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a quand même aussi des militaires français de l'opération Barkhane. D'une part, d'autre part, il y a aussi la présence des militaires africains à travers la MINUSMA. Donc, moi, je vois un peu de l'extérieur. Vous avez des militaires maliens, vous avez les militaires français avec Barkhane, et vous avez les militaires africains, si j'ai bonne mémoire, ça doit être quelque chose comme 6 000 ou 7 000 soldats de la MINUSMA ou un peu plus, j'ai un peu oublié. Donc, c'est quand même 3 forces militaires importantes. Donc, comment, dans ces conditions-là, il n'y a pas possibilité d'engager des processus embryonnaires qui iraient dans le sens de la sécurité? Je ne parle pas de paix encore, je parle de sécurité. Il y a quand même des moyens techniques extrêmement importants. Il y a les drones, il y a des possibilités de s'appuyer aussi sur les populations. M. Cheboun Meïga faisait référence au fait que ces gens-là sont connus de la population. Donc il y a quand même des services aussi qui existent. Comment se fait-il qu'on ne s'appuie pas sur cette population-là pour lutter contre ce que j'appelle des groupes armés narco-djihadistes qui relèvent de formes de terrorisme? C'est quand même un peu inquiétant. Je ne saurais pas estimer le nombre de militaires qu'il y a dans cette pantalon, mais je pense que ça doit atteindre quelque chose comme 10 000 militaires, ou peut-être même plus. Comment des groupes armés mobiles, de petite dimension, peut-être 20, 30, 40, 20, je ne sais pas exactement, ont capacité justement à créer les conditions structurelles d'une insécurité quasiment permanente? Cette insécurité, elle n'est plus résiduelle, elle est quasiment permanente. Donc il y a quand même des questions qui me dérangent.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la dimension djihadiste lors du processus d'Alger. Aujourd'hui, comment est-ce que la communauté internationale peut revoir sa copie en négociant, peut-être pas, mais en intégrant la dimension djihadiste dans le processus de paix?
Alors, je dirais plutôt, dans un premier temps, le processus d'un retour à une sécurité embryonnaire. Alors ça appartient aux décideurs politiques et plus particulièrement aux États concernés. Pratiquement tous les États de l'espace saharo-sahélien sont concernés par ces groupes armés narco-djihadistes. Que ce soit l'Algérie, que ce soit la Mauritanie, le Mali, le Niger et bien sûr la Libye, et puis peut-être prochainement aussi la Côte d'Ivoire et le Burkina, Donc il appartient à ces États qui sont confrontés depuis déjà quelques années à ces groupes armés narco-djihadistes de prendre des décisions, peut-être d'abord des décisions d'ordre politique, mais pourquoi pas, ça c'est après leur initiative, prendre des décisions d'ordre militaire. Il y a eu l'expérience du CEMOC, le CEMOC qui a été une coquille vide. Ensuite, il y a eu l'expérience du G5 avec la mini-Sahel, excusez-moi, je ne sais plus très bien. Mais en définitive, savez-vous sur quoi? Voilà le constat que je dresse, une multiplicité d'organismes, et les salafistes djihadistes continuent, non seulement ils continuent, mais ils vont dans le sens d'une extension sur l'ensemble du territoire malien, puisque ça va maintenant jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est quand même étonnant.
Merci beaucoup, André Bourgeau. Alors, Firoun Maïga, aujourd'hui, comment peut-on rétablir les négociations ou quelle que soit la manière mettre une table pour que les acteurs de ces actes puissent intégrer le processus aujourd'hui? Est-ce que la communauté internationale a un devoir dans ce sens?
Oui, bon, je vais dire, c'est une question qu'il faut traiter à plusieurs niveaux. La question du djihadisme, des djihadistes, c'est comme on le connaît, participer à une négociation pour un accord principe, ainsi de suite, je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui est à côté parce que et le Mali et la communauté nationale et internationale ne sont pas prêts à négocier avec des gens qui ont une autre idéologie, contraire aux principes d'un État républicain, laïque, ainsi de suite. Et la communauté internationale ne va pas cautionner une telle affaire. Ça a été fait, des voix se sont levées à Alger, mais la question a été très claire. Les partenaires internationaux disent qu'ils ne négocient pas avec les djihadistes, ils les combattent.
Deuxième. Alors, aujourd'hui, oui, est-ce que l'ensemble de ces forces ont la capacité de les vaincre?
Mais bien sûr. Mais Barkhane est en train de porter des victoires. Ils sont en train
oui,
de
mais pendant des ce temps, les oui. soldats se font tuer.
Oui, oui, mais la question malienne, il faut la comprendre d'une certaine manière. Nous sommes au Mali. Si nous avons besoin de résoudre nos problèmes, il faut que le Mali comprenne. Il faut que les autorités maliennes comprennent. La sécurité, pour mieux la renforcer, il faut aller au niveau de la base. Il faut impliquer les communautés dans la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, si, parce que quelque part, ces gens-là qui sont dans des zones aussi éloignées, qui sont vulnérables, qui ont des problèmes, s'ils ne sentent pas la présence de l'État, ainsi de suite, ils vont se taire. Ils vont regarder des gens qui vont continuer. Et puis bon, un beau jour, ils viendront à leur porte pour dire que bon, vous avez fait ça. Il y a cette peur qu'on est en train d'installer. Il faut qu'il y ait des politiques au niveau de l'État malien pour amener les populations à prendre leurs responsabilités et à coopérer. Ça, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Et du côté de l'État malien et du côté des populations elles-mêmes. Et je suis convaincu que si cette démarche est entamée et on va vers les populations pour leur dire de toutes les façons, ils ne sont pas là simplement pour croiser les doigts et que l'armée soit là pour venir les protéger. Une armée ne peut pas protéger tout un monde, il faut que les gens collaborent. Allez-y en France, vous avez des gens qui dénoncent à la minute quand il y a des suspects qu'on ne connaît pas. Allez-y aux États-Unis, à la moindre des choses, il y a des gens qui viennent. Pourquoi ici les Maliens ne s'élèvent pas et comprennent que l'attitude qu'ils sont en train de prendre est suicidaire? Ces djihadistes peuvent faire des actions ici à Bamako. Parce que nous sommes naïfs, je m'excuse du terme, je le dis, nous sommes d'une autre manière, on pense que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de telle personne. Aucune armée, à elle seule, ne peut sécuriser un pays sans la participation des populations elles-mêmes pour lesquelles elle est en train. Donc, il y a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour discuter avec eux? Tout le monde connaît Yad, il est au nord de Kidal. Je ne suis pas étonné si Barkhane ne sait pas là où il est, où est-ce qu'il dort, si la MINUSMA ne sait pas où est-ce qu'il dort. Mais ça, c'est d'autres problèmes. Je ne sais pas, il y a d'autres enjeux politiques, géopolitiques qui rentrent dans la... Et le Mali, aujourd'hui, est très fragile, très vulnérable. La capacité de réaction, elle n'est pas aussi proportionnelle à la menace. Donc, il faut comprendre que nous sommes vulnérables. Mais il faut que les Maliens comprennent que c'est d'abord leur problème.
D'accord. Voilà. Firoun Maïga de la plateforme. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook et notre compte Twitter pour vous permettre de réagir face à ce que vous entendez dans cette émission ou tout simplement faites un tour sur notre site web www.studiotamani.org. Alors nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la situation sécuritaire dans le pays avec la mort en 72 heures seulement de plus d'une dizaine de soldats maliens dans le nord et au centre du pays. Alors la rencontre Mali-Mauritanie s'est tenue ce week-end. Pourquoi cette rencontre et quelle est son urgence, André Bourgeot?
Embuscade qui a eu lieu récemment. Que je pense aussi, sans en avoir les preuves, que ça renvoie à la nature des coopérations entre la Mauritanie et puis le Mali. Mais je voudrais prolonger un petit peu les propos qu'a tenus M. Firoun Mouéga. Je crois que s'il n'y a pas une volonté politique, et j'insiste sur la volonté politique au niveau du gouvernement et au niveau de l'État malien, pour procéder à une mobilisation de la population ne va pas se mobiliser spontanément. S'il n'y a pas des orientations politiques, une volonté politique, qu'elle soit laïque ou religieuse, je crois qu'il ne veut pas minimiser non plus l'influence et le poids politique du Haut Conseil islamique du Mali. Donc s'il n'y a pas de conjugaison de ces deux aspects-là, bon, on se limitera à déclarer on s'appuie, il faut s'appuyer sur les populations, mais il n'y a plus d'initiative politique qui va dans ce sens, pas plus que l'opposition politique malienne ne va dans ce sens. On parle beaucoup des populations, mais on ne les sollicite pas d'une manière officielle pour qu'ils interviennent, y compris au niveau du renseignement. Je suppose que les services de renseignement maliens s'appuient aussi sur des éléments de la population et que c'est comme ça qu'ils obtiennent des informations et des renseignements qui vont permettre de passer à l'action. Donc vous voyez, c'est un tout et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'absence d'organisation et de volonté politique. C'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est comme ça que je le ressens.
Alors, merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, Firoun Mouéga, vous êtes de la plateforme aujourd'hui. Comment définir cette réunion entre le Mali et la Mauritanie?
Oui, il faut saluer cela. Le Mali et la Mauritanie sont deux pays frères. Nous avons des relations séculaires. Nous sommes de part et d'autre de la frontière. N'oubliez pas que la question de Nara, tout dernièrement par rapport à ce qui s'est passé, a beaucoup touché la Mauritanie.
Nampala également.
Nampala, effectivement. Nampala, c'est seulement hier. Bon, donc, il y a une coopération entre le Mali et la Mauritanie pour sécuriser les frontières, les populations et leurs biens et tout ce qui se passe. Donc moi je pense que la situation telle qu'elle se présente exige effectivement que les deux pays se concertent. Mais cette fois-ci, il faut que ce soit une concertation de franche collaboration. Il faut que la Mauritanie, qui a une certaine expertise, qui connaît ce milieu, qui a une certaine avance sur ce problème de terrorisme, de djihad, parce qu'elle le connaît, accompagne le Mali dans cette dynamique, même à l'intérieur du Mali, comme ils ont eu l'habitude de le faire. Ils ont manœuvré sur le territoire malien, parce qu'à l'époque, ils avaient besoin, le Mali avait besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les autorités maliennes et mauritanienne, la défense malienne et mauritanienne se doivent se donner la main, bon, pour essayer de continuer cette situation-là, qui est nouvelle pour nous, mais qui est très très bien connue d'eux, parce qu'ils ont des instruments nouveaux sur lesquels on peut s'appuyer nous-mêmes de notre côté. Tout est une question, moi je pense, de collaboration, de formation, d'éducation, de mise à niveau, mais comme l'a dit André Bourgeot, je pense qu'il faut qu'il y ait une politique, comme il l'a dit, je suis parfaitement d'accord avec une affichée du Mali, à vouloir amener les populations à comprendre que leur place dans la lutte contre ce terrorisme et le retour de la sécurité, elle est incontournable. Maintenant que l'armée ne se disent pas que je suis seul maître d'œuvre capable de pouvoir ramener ça. Je pense qu'aujourd'hui, même s'ils ont l'intention, elle est bonne, mais il faut une véritable coopération.
D'accord. Alors, André Bourgeot, dites-nous si aujourd'hui on peut imaginer une connexion entre ces terroristes sur le terrain et quelques groupes armés, que ce soit à revendication politique dans le nord et sur le terrain.
En tout cas, c'est une hypothèse à ne pas écarter. Quand je dis que c'est une hypothèse à ne pas écarter, c'est au niveau informel. Je pense qu'il y a effectivement certains éléments des groupes armés rebelles, Touareg et Arabes, qui ne sont pas satisfaits de l'accord de paix et qui, en revanche, ont des capacités de nuisance guerrière et militaire assez importantes. Et je voudrais reprendre et continuer ce que j'ai dit au début de votre émission. Et ça, on retombe encore une fois sur le problème du contenu des accords d'Alger. À partir du moment où les autorités maliennes reconnaissent le bien fondé des revendications du mouvement national de libération de la Jawad comme la région de la Jawad comme étant une entité géographique, politique et culturelle, il est bien évident que ça crée les conditions de la compétition pour se placer, pour obtenir des postes. Donc, d'une part. Et d'autre part, il y a eu des décisions d'ordre politique, cette fois-ci, qui allaient dans le sens de l'impunité. Donc, moi, je me mets à la place de ces gens-là. Ils se disent, bon, on a une garantie parce qu'on sera dans l'impunité. Il faut qu'on fasse comme tout le monde, qu'on se batte pour obtenir des postes. Donc, ça ne peut que générer des dynamiques et des pratiques de type opportuniste, et opportuniste au sens premier du terme. Ça ouvre la dimension politique dans ce genre de comportement. Donc je crois que tant qu'on n'aura pas abordé d'une manière sereine et politique le contenu des accords, on risque de reproduire les mêmes erreurs que dans le passé.
Merci beaucoup, André Bourgeois. Alors, nous restons toujours sur cette rencontre Mali-Mauritanie. Aujourd'hui, ces deux pays se concertent. Pourquoi l'Algérie n'est pas dans ce groupe, Feroun?
Oui, mais il faut comprendre que le Mali aussi a une coopération avec l'Algérie. Entre le Mali et l'Algérie, il y a une coopération très poussée, avancée. Et je sais que ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut dire que l'Algérie a été en marge des questions sécuritaires au Mali. Elle est très impliquée. Elle a aussi piloté les pourparlers pour les accords. Elle est concernée parce qu'elle partage une frontière qui est proche de ces foyers de tension. Donc, je ne pense pas que l'Algérie soit un peu en marge, mais elle travaille avec le Mali en ce qui le concerne dans le cadre de leur coopération bilatérale. Maintenant, entre le Mali et la Mauritanie, c'est ça. Ça peut se faire entre le Mali et le Sénégal, ça peut se faire entre le Mali et le Burkina. Chaque fois que la question prenne une dimension politique assez importante, je pense que les États sont dans leur responsabilité à se concerter, à voir. La question, c'est du côté de la Mauritanie, parce que nous partageons effectivement des populations de part et d'autre. Nous avons des djihadistes de part et d'autre. La Mauritanie a des djihadistes, nous avons des djihadistes. Ce n'est pas exclu qu'il n'y a pas de djihadistes en Algérie, ainsi de suite. Tout le monde sait ce qui se passe. Mais je pense que ce rapprochement fait que nous avons des intérêts communs que nous devons chercher à sauvegarder ensemble. Et la question de l'Algérie aussi est une question fondamentale. Et je pense que le Mali entreprend aussi dans ce sens-là des dispositions qui sont presque avancées. Parce qu'entre le Mali et l'Algérie, vous savez, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une question de depuis les indépendances. Nous avons été toujours ensemble. Et si l'Algérie est à côté du Mali et même dans ce processus, quelque chose qui a salué, ça veut dire que sa place est importante dans le retour de la sécurité au Mali. Et pour l'Algérie et pour le Mali. Donc c'est une question qui est traitée, mais comme les États sont des États, nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons qu'apprécier et regarder chaque fois qu'une information nous arrive, nous la traitons comme ça. Il est possible qu'il y ait aussi d'autres activités, d'autres actions là.
Alors, André Bourgeois, que faut-il attendre d'une telle rencontre entre le Mali et la Mauritanie? Alors, André Bourgeois nous a fait faux bond. Nous allons retenter de le joindre par téléphone. La régie va donc essayer de joindre André Bourgeois. D'ici là, Firoun Maïga, vous dites que l'Algérie n'est pas en marge de cette situation, mais il y a aussi le Niger. On voit peu d'action du gouvernement du Mali vis-à-vis du Niger pour endiguer ce problème de terrorisme.
Bon, écoutez, le Niger et le Mali, comme les autres pays de ce côté-là, ont de sérieux aussi problèmes. N'oubliez pas que le problème de Boko Haram qui nous arrive jusqu'ici a pris naissance au Nigeria et c'est le Niger qui est aussi impliqué. Donc, ils ont aussi des défis à relever, mais ça n'a pas empêché au Niger d'être présent. Il y a une armée nigérienne aujourd'hui dans le sein de l'AMINUSMA qui occupe de vastes zones, comme la zone de Menaka, ils sont à Kidal, ils sont à Gao, ainsi de suite. Donc le Niger est présent. N'oubliez pas aussi que tous ces États-là sont membres du comité de la médiation de l'accord. Donc c'est vrai que la mise en œuvre de cet accord va recommander effectivement des actions stratégiques de part et d'autre de chaque État pour essayer de prendre en tenaille le problème de l'insécurité dans la sous-région sahélo-sahélienne. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'ils le pensent, c'est des États qui doivent réfléchir sur ça. Maintenant, de manière claire, est-ce qu'il y a une action politique d'éclat qui va montrer, comme celui du Mali et de la Mauritanie, qu'elle se passe de l'autre côté? Bon, les actions sont les actions. Peut-être que le temps va nous donner l'occasion raison. De mieux raison, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Mais je pense que ce qui est en train de se faire, le retour de la sécurité, le problème de nos frères qui sont djihadistes, et une question a été posée, le problème de ceux qui ont été, qui sont mécontents, qui ne se reconnaissent pas dans l'accord, qui sont des... Mais je dis simplement, moi, de ma compréhension, ce que l'on parle de djihadistes, que ce soit Peul, Sonrail, Touareg, ainsi de suite, même en Sardine, ainsi de suite, c'est sur le même territoire, on se connaît. Aujourd'hui, on peut être en Sardine, on peut être djihadiste parce qu'on est de ce côté, demain, on est mouvement. Il n'y a pas... En fait, la frontière est tellement mince qu'on est à mesure de... il est possible de basculer dans n'importe quelle chose. Parce que la question du trafic, la question de la drogue, elle est quelque chose qui est un enjeu important et tous ont appris à connaître les intérêts de ce qu'on peut tirer de ça. Que ça soit groupe armé, que ça soit djihadiste. Donc, ils se connaissent. Et il y a des gens, il y a des djihadistes qui sont, comment on peut le dire, on les connaît, les populations les connaissent. Les populations les connaissent. Le seul problème, ils ne peuvent pas les dénoncer simplement parce qu'on se dit, je n'ai aucune garantie pour me dire aujourd'hui, voilà ce type-là.
Est-ce que c'est un aveu d'impuissance que vous mettez aujourd'hui en avant de la part des autorités peut-être ? On les connaît, mais on ne peut pas les vaincre ?
Non, pas. Les autorités, c'est autre chose. Si le Mali rencontre des djihadistes, c'est sûr et certain qu'ils ont la capacité de pouvoir se défendre et même de pouvoir les détruire. Ça, c'est des forces contre des forces. Je parle de la population malienne qui occupe ces zones. Il y a le poids de l'islam au Mali qui est un enjeu véritable. Aujourd'hui, quand le Mali a été occupé en 2012, vous avez vu l'effort
des religieux.
Ils sont partis à Kidal. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a un silence? Pourquoi aujourd'hui personne ne parle? Pourquoi aujourd'hui chacun d'entre personne ne lève la voix pour dire que non, écoute, il y a quelque chose qui se passe, nous ne sommes pas d'accord. Le même jeu qui a été en 2012 est valable aujourd'hui pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire, elle est encore meilleure que celle de 92. Il y a un silence. Tout le monde pense que c'est le problème peut-être de l'État, ou même si c'est leur problème, ils ne l'affichent pas. Donc il y a une démission, pas de l'État malien, parce que l'État c'est ce qu'elle a. Mais non, tu ne peux donner que ce que tu as. L'État malien, c'est ce que nous lui donnons. L'armée malienne, c'est celle que nous voulons qu'elle soit. Et si elle est à ce niveau-là, il faut s'interroger soi-même.
D'accord. Alors nous allons repartir du côté de la France, retrouver André Bourgeot. André Bourgeot, que peut-on attendre d'une telle rencontre entre le Mali et la Mauritanie? Est-ce qu'il va y avoir des actions concrètes à l'issue de cette rencontre?
S'il n'y a pas d'action concrète, ce sera encore une réunion ou deux réunions qui déboucheront sur rien, si ce n'est que sur des déclarations d'intention. Le problème est suivant, c'est que les réunions doivent déboucher sur des actions concrètes bien définies. Je reprends le problème des relations avec les populations. Il ne s'agit pas de faire de la délation. Les populations ne sont pas faites pour ça, mais elles ont capacité à s'organiser justement pour lutter contre les groupes, les éléments de ces groupes, armés narco-djihadistes qu'ils connaissent très bien et sans pour autant passer par la délation. C'est ce que j'entends par une mobilisation de type populaire. C'est ça que je veux dire. Mais pour que ça se fasse, il y a deux manières de le faire. Ou ça part de la base, comme ça s'est fait à Gao, avec les trois groupes que je cite assez fréquemment, à savoir les patrouilleurs, nous pas bouger, et puis les patriotes. Donc ça vient de la base. Imaginons que dans les grandes localités maliennes, il y ait ce type d'organisation qui est initiée par des jeunes. Ce serait quand même quelque chose d'important. Je crois qu'il faut sortir des grains. Les grains, c'est une bonne chose, mais c'est quand même extrêmement limité. Donc il y a des potentialités qui sont importantes. Ensuite, effectivement, se pose le problème, et là encore, les accords d'Alger ont refusé d'aborder le problème, à savoir celui des drogues et de la fraude illicite qui corrompt pas simplement que le septentrion malien, et qui se ramifie sur l'ensemble du territoire. Donc, je me dis, mais là, attention, c'est quelque chose de fondamental. Tout le monde est au courant, tout le monde sait, et c'est la raison pour laquelle je dis groupes armés narco-djihadistes, mais les groupes rebelles armés, qu'ils soient pareils ou arabes, sont aussi dans ce trafic de cocaïne. Où est la volonté politique de l'État malien pour engager quelque chose? Je dis bien quelque chose, on ne va pas l'éradiquer comme ça du jour au lendemain. mais quels sont les processus qui pourraient être engagés pour aller pour faire en sorte de contrecarrer un petit peu tout ce qui se passe dans ce pays-là. Je ne sens pas cette volonté politique.
Merci beaucoup, André Bourgeot. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons pour la troisième partie de cette émission. Troisième et dernière partie.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Ce débat réfléchit sur la situation sécuritaire. Près d'une dizaine de soldats maliens tués dans le nord et au centre du pays en moins de 3 jours. Alors nous sommes avec 2 invités pour en parler. André Bourgeot, spécialiste du Mali et également du Sahel. Firoun Maïga de la plateforme. Merci à vous messieurs pour votre éclairage. Nous allons donc réfléchir dans cette troisième partie sur l'affirmation de la MINUSMA concernant la violation du cessez-le-feu. Alors, la MINUSMA affirme que le cessez-le-feu a été violé sans préciser où et par qui, Firoun Maïga. Est-ce que vous avez d'autres précisions?
Ben écoute, moi je n'ai pas de précision ni d'information. Ce que je peux dire, la plateforme n'a pas violé de cessez-le-feu. Je pense que depuis l'accord du 20, la situation est bon enfant entre la CEMA et la plateforme. Nous collaborons, nous partageons des visions, nous avons des concertations régulières, c'est vrai. Après le 20, la situation s'est tellement décantée. Nous avons eu des réunions entre nous-mêmes, informelles, pour essayer de voir la situation sécuritaire du Nord. Comment est-ce que nous devrons nous positionner? Comment nous devrons créer la confiance entre nous et les populations de part et d'autre, que ce soit de la région de Kidal et de la région de Gao? Mais je t'apprends aujourd'hui que vous avez des éléments de la CEMA qui sont à Gao, qui sont chez eux. Et qui manœuvrent comme avec leurs véhicules, leurs armes, pas de problème, nous le savons. Et je sais aussi que nous avons des combattants de la plateforme qui sont dans la région de Kidal, auprès de leurs familles, pour saluer et ainsi de suite. Donc ça, c'est des questions que nous avons su à un moment apprécier de part et d'autre. Bon, je ne pense pas que cela rime avec une violation, parce qu'il n'y a pas... Il y a violation quand il y a tir, il y a occupation, il y a autre chose conformément à l'accord tel que nous l'avons signé. Mais aujourd'hui, je pense que s'il y a violation, peut-être que la MINUSMA a constaté Barkhane violer quelque chose, ou bien elle-même, elle a violé quelque chose, moi je ne sais pas. Oui. En tout cas, je m'informe, si la MINUSMA peut nous indiquer qui a violé quoi, en ce moment, je pourrais donner mon point de vue.
Mais d'accord.
Pour le moment, je pense qu'entre la plateforme et la CEMA, aujourd'hui, on se retrouve entre nous Maliens. Je
d'accord.
pense que c'est des choses à encourager.
Merci Firoun Maïga, vous êtes de la plateforme. Alors André Bourgeot, que comprendre de cette situation? La plateforme et la CEMA disent que ce cessez-le-feu demande plus de clarté donc à la MINUSMA par rapport aux lieux et aux acteurs de cette violation du cessez-le-feu. Doit-on encore plancher sur des questions similaires, André Bourgeot?
Oui, probablement. Bon, j'observe que c'est intéressant pour quelqu'un qui est observateur de l'extérieur, c'est que les deux parties prenantes les plus impliquées dans les accords de paix, hein, à savoir la CMA et puis la coordination et la plateforme, découvrent à l'entendu des informations délivrées par la MINUSMA qu'il y a une rupture du cessez-le-feu. Donc on s'est dit, mais on est où? Les deux intéressés découvrent, la MINUSMA dit qu'il y a eu une rupture du cessez-le-feu. S'il y a effectivement rupture du cessez-le-feu, on se pose le problème de fond qui n'est pas encore abordé, mais qui le sera probablement dans les semaines qui viennent, c'est le problème du cantonnement de ces groupes armés, et ça participe aussi d'une des conditions d'application des accords de paix. Alors quand est-ce, dans quel moment, dans quelles circonstances, on va aborder ce problème du cantonnement, c'est un gros morceau, d'autant que le cantonnement va poser aussi le problème des conditions de réinsertion, d'installation de certains éléments dans les structures militaires maliennes ou dans les structures administratives maliennes. Donc là, c'est un gros morceau. Apparemment, il n'y a pas de cantonnement, puisque la MINUSMA observe, elle ne dit pas qui fait quoi, mais elle a constaté des mouvements de groupes armés qui parcourent, qui sillonnent certaines villes du septentrion.
Alors, je rappelle que nous avons fait appel au MNLA, aux membres donc de la CEMA, de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, à cette émission. Mais depuis le début de cette émission, nous tentons de joindre Jerry Maïga, membre du MNLA, sans succès. Alors, je reste avec vous, André Bourgeau. Aujourd'hui, est-ce que ce processus de paix, de retour à la normale, est en train d'avancer comme vous le souhaitez? En tant qu'analyste,
bon, comme je le souhaite, certes pas, mais il n'y a aucune condition d'application des accords qui se fait d'une manière linéaire. Il y aura toujours des avancées, des reculs, etc. Le processus ne peut être que fondamentalement contradictoire compte tenu des enjeux énormes qu'il y a dans ces accords-là. Et par ailleurs, la diversité aussi des groupes armés. Tant qu'il n'y a pas une cohérence entre ces différents groupes, c'est difficile de procéder à des avancées de type linéaire. Et là, je fais référence au fait qu'au sein du comité de suivi de l'application des accords, il y a des divergences assez importantes sur l'opportunité ou la non-opportunité de faire figurer des groupes qui ne sont pas, je crois, signataires des accords de paix, mais qui veulent participer aux conditions d'application. Donc on voit bien qu'il y a là aussi des problèmes d'enjeux et de leadership politique et probablement aussi militaire divergents. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je ne voudrais pas être à la place des négociateurs, que ce soit ceux de la plateforme ou ceux de la coordination, parce que il y a des avancées, il y a un flou qui règne. Quelles sont les coordinations entre l'armée malienne, la MINUSMA, Barkhane, au vu de ce que je viens d'entendre tout à l'heure, il semblerait que la coordination ne soit pas particulièrement efficace. J'allais dire, que faire ? Il y a quelqu'un de célèbre qui a écrit un petit ouvrage là-dessus. Je pense que c'est des situations extrêmement complexes, mais qui résultent aussi des conditions d'élaboration des accords de paix. Ça a duré 8 mois avec une feuille de route qui était un petit peu fluctuante, qui était un petit peu en dents de scie. Donc actuellement, on paye un petit peu tout ce passif.
Merci beaucoup, André Bourgeau. Alors, Firoun Maïga, vous êtes de la plateforme aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes avec le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR?
Bon, moi, ce que je peux dire d'abord, pour qu'il y ait un désarmement, démobilisation, il faut qu'il y ait un cantonnement. Et s'il y a un cantonnement, il faut que les conditions soient réunies pour que ce cantonnement soit une réussite. C'est pas seulement à demander aux gens demain venez déposer les armes.
Est-ce que les sites déjà ont été déterminés, les sites de cantonnement?
Non, des discussions autour de ces sites sont avancées. Les mouvements ont donné leur position, les sites sur lesquels ils souhaitent se retrouver. En définitive, il est de la responsabilité du gouvernement du Mali de conduire les opérations de cantonnement, contrairement à ce que les gens se disent. Alors, ils doivent valider effectivement les sites autour desquels les gens auront des compromis. Une fois les sites identifiés, il faut qu'elles soient viabilisées. Il y a des normes. Et ce n'est pas un travail d'une semaine, de 2 semaines. Et puis cette question-là qu'on occulte un peu, il y a la question aussi du financement. Il faut qu'il y ait de l'argent pour que les conditions soient réunies afin de pouvoir viabiliser les sites et de dire, bon, nous sommes prêts pour telle date. L'accord définit dans son calendrier effectivement des dates.
Avant la crise de mai 2014, l'aménagement disait avoir déjà acquis les fonds nécessaires pour ce programme. Est-ce qu'aujourd'hui, ceci est remis en cause?
Non. L'aménagement a le même temps. Ils sont disponibles, ils doivent rentrer, ils sont en mesure de pouvoir accompagner. Mais l'aménagement, elle seule, ne peut pas organiser ça. Il faut que le Mali prenne les conditions, les dispositions nécessaires, parce que c'est elle qui a la responsabilité, effectivement, parce que c'est elle qui est le pays souverain, qui doit accepter ses enfants de se retrouver. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'avancée au niveau du comité de suivi, les statuts et règlements intérieurs ont été validés. C'est vrai, André a dit des questions qui se riment à ça, mais c'est des questions, bon, c'est vrai qu'on veut mettre en avant, mais qui ne sont pas aussi importantes. Les acteurs, c'est le gouvernement du Mali, c'est la CEMA, c'est la plateforme. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. La porte est ouverte à tous ceux qui doivent venir accompagner dans la mise en œuvre. Il n'y a pas de restriction à ça. Mais il faut appeler le chat le chat.
Voilà, ceux qui sont les acteurs, qui sont responsables, qui ont signé, ont la responsabilité de définir avec la communauté internationale une vision. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent exclure X ou Y parce que simplement ils ont la latitude ou bien ils ont la... Non, ce n'est pas du tout ça. Je pense que sur cette question-là, on est en train de lui donner un contenu qui n'a pas son importance. Le problème, c'est la volonté du gouvernement, la volonté de la médiation, la volonté des partis à se retrouver, à avoir un calendrier opérationnel le plus tôt possible, à créer les meilleures conditions sécuritaires pour que les combattants se retrouvent sur les sites et se désarment. Mais pour aussi désarmer les combattants, il faut régler cette question-là autour de laquelle nous sommes en train de discuter aujourd'hui, la question sécuritaire globale. Est-ce qu'on peut mettre des gens dans des cantonnements alors qu'il y a des djihadistes qui se promènent tout autour? C'est une question fondamentale. Et ce n'est pas le Mali seul, c'est le Mali, la communauté internationale, tous les pays du champ qui doivent créer les conditions pour pacifier cette zone avant d'arriver au cantonnement. Je pense qu'il y a une lueur d'espoir avec le Mali et la Mauritanie. Si aujourd'hui Nara est sécurisée, la forêt de Ouagadou est sécurisée jusqu'au niveau de Tombouctou, je pense qu'on aurait gagné en temps. Si au niveau du sud, le Mali et Barkhane et la MINUSMA créent les conditions en une semaine, ils peuvent ratisser toute cette zone et on ne parlera même pas de ça. Pourquoi ? Ils ne le font pas. Pourquoi Barkhane ne le ferait pas? Pourtant, ils disent qu'ils luttent contre les djihadistes. Pourquoi la MINUSMA ne le fait pas? Ils disent qu'ils luttent contre le terrorisme. Et pourtant, voilà les zones de tension. Voilà.
Alors, Barkhane est dans le nord, la MINUSMA également. Ces forces étrangères sur le sol malien, est-ce que Barkhane peut, on peut mettre plus d'accent sur les capacités de Barkhane et lui demander de faire plus que cette force ne fait déjà sur le terrain, André Bourgeot?
Je ne saurais pas très bien comment vous répondre. Parce que solliciter une nouvelle fois la présence de militaires étrangers ne me paraît particulièrement bon pour le devenir du pays. Je crois qu'il faut, développer la fonction de l'armée malienne. D'une part, d'autre part, est-ce que la puissance française a les capacités financières et militaires de renforcer l'opération Barkhane au Mali? Ça ne me paraît pas évident. Les militaires français sont sur l'ensemble de l'espace sahélo-sahélien, à l'exclusion de la Libye et puis de l'Algérie. Donc ça coûte cher aussi aux contribuables français. Donc il peut y avoir des conséquences politiques négatives sur le fait qu'il y a des militaires français un petit peu partout maintenant en Afrique de l'Ouest. Encore une fois, recourir aux forces extérieures ne me paraît pas bon, alors qu'il y a des manifestements au sein de la population malienne, au sein du peuple malien, des possibilités d'organisation pour lutter contre ces forces djihadistes, mais pas simplement, aussi contre les dissidents identifiés des groupes armés rebelles, Touareg et arabes. On connaît quels sont les irrédentistes qui ont dit non, on ne signera pas les accords d'Alger parce que nous sommes en désaccord avec tel point. Donc encore une fois, on retombe sur ce problème qui me paraît fondamental, c'est est-ce qu'il va y avoir une volonté politique de procéder à la mobilisation du peuple malien qui est là et qui demande probablement qu'il y ait aussi à agir, à condition qu'on le sollicite.
Merci beaucoup André Bourgeot, merci à Firoun Maïga. Je rappelle que le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, était invité à cette émission et malheureusement la régie n'a pas pu joindre Mamadou Djeri Maïga, vice-président donc du MNLA et membre de la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Un grand merci à vous messieurs qui m'avez donc aidé à animer cette émission. André Bourgeot, chercheur spécialiste du Sahel, Firoun Maïga, membre de la plateforme. Ousmane Diadié Touré n'est pas là aujourd'hui. Cette émission a été entièrement réalisée par Seydou Fomba. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Djouara était à la mise en onde et Mamadou Ouattara nous a été d'un grand apport à la régie vidéo. Merci à tous. Bonsoir et à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.